Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, galère, bonjour. Émission Livres et Amis du mercredi 9 février. Comme nous l'avions annoncé, nous revenons aujourd'hui à Kateb Yacine avec le Polygone étoilé, à la demande d'Odile qui aime beaucoup ce livre, paru en 1966 au Seuil et depuis dans la collection Point. Le Polygone étoilé, la figure du Polygone étoilé dont procède l'œuvre, c'est, d'après l'auteur, ce motif ornemental qui revient avec puissance d'un bout à l'autre du monde méditerranéen, cette sorte de rosace, ce polygone donc équilibré mais pointant vers l'extérieur ses angles offensifs. Le Polygone étoilé, c'est un peu, en tant que roman, une suite de Nejma qui était parue en 1956 et que nous avons lu en décembre. Mais Nejma, ce n'était déjà pas un roman. Nejma, plus qu'un personnage, était, en 1956, une sorte de représentation métaphorique de la nation algérienne à venir, un rêve, peut-être même une chimère. Dans le Polygone étoilé, Kateb Yacine, rappelons que son nom veut dire l'écrivain, reprend une composition littéraire en mosaïque, un peu comme si la construction de l'Algérie restait à faire. En 1966 donc. Le Polygone étoilé, c'est à nouveau un livre multiple qui associe éléments de narration et de rêverie, dialogues de théâtre et parties de poésie. Et à nouveau, les thèmes constitutifs de l'œuvre sont la douleur du passé colonial, les liens familiaux et amicaux, la séduction de la femme idéale et la difficulté de la vie dans le monde contemporain. Bien des personnages de Nejma réapparaissent dans le Polygone étoilé, poursuivant leur chemin dans une œuvre au cœur de la littérature du Maghreb actuel. À la sortie du livre, un critique a écrit « Le Polygone étoilé, c'est la polyphonie de la souffrance des exilés » et aussi « Le masque fragmenté d'une histoire collective et individuelle, histoire collective et individuelle superposée ». Dans une critique qui est parue fin 1966 dans la revue Souffle, l'universitaire Abdelatif Labi parle du polygone étoilé, comme d'un bloc enraciné et irradiant, un volcan éruptif, produisant une langue nerveuse et incisive, grandie par la maturité de l'exil. C'est un fait. L'œuvre juxtapose et superpose des tessons de textes, parfois chevauchants, mettant en place un mouvement de nomadisme et d'errance qui prend pour pivot la dénonciation permanente de l'exploitation de l'homme. C'est cette profusion que nous allons essayer de vous faire partager. D'abord, l'errance et l'exil de l'Agdar. Ce personnage qui vient de Nejma, à nouveau quitte le Constantinois pour se rendre en premier lieu à Alger, puis en France. Dans le premier poème, on ne sait pourquoi, l'Agdar prend les traits d'un vieil homme.
Le vent qui veut jamais rester dehors, le soleil pénétrant qui nargue, et les pistons s'envoient des coups de poing furtifs plus vite. Sur les frissons du fleuve mort de peur, et le cheval fumant gronde en un corridor épouvantable, on traverse l'enfer. Pourtant on est passé, le monstre s'est adouci, et leurs ponts sont solides. Mais on se sent fragile comme des œufs, sur une peau de serpent traînée par une fourmi gémissante qui vomit des nuages sur les lauriers roses. Trois marchands en vadrouille, devenus orateurs, mettent je ne sais combien pour allumer la cigarette au briquet aveuglant. Encore un peu, et les moustaches communiquent la flamme aux turbans ébranlés. Je vais fumer à leur place. Aujourd'hui ou demain, on est tous bons pour l'enfer. Ça purifie. Nous aimons tant les voyages, bien que n'ayant point accès en tant qu'arabes crasseux qu'ils disent les cochons, dans leur wagon et dans leur cabine. La fausse vierge toute nue, on lui voit les genoux, si délicate, elle doit taper sur les machines d'où sortent les procès, les discours et les guerres. Ne peut longtemps supporter notre présence, elle s'étire douloureusement à chaque station. C'est beau, c'est jeune et ça s'ennuie. S'empare du cœur de l'orange et du pays. Et voilà qu'elle sourit. Si je n'avais pas ma barbe blanche, je lui dirais comment je vois l'avenir. On arrive.
On arrive, en fait, donc Lagdar ou son vieux compagnon vont se faire détrousser en arrivant. Et c'est Lagdar qui revient au village ensuite pour retrouver ses camarades et lui rendre compte. Mais il repartira.
Ah, ces paysans! D'autres cousins sont retirés dans une impasse, devant des tables longues comme des cercueils. Ce vieux-là, si on le laisse, va se faire dévaliser par des étrangers. Mieux vaut que ça reste en famille. Prends-lui l'argent. C'est la première fois que je suis à Alger. Tant pis, je reviendrai. Il court encore, les souliers à la main. Les camarades l'attendent avec des têtes de mort. C'est beau, Alger ? Vous pouvez pas savoir. La prochaine fois, on ira ensemble.
Lagdar, en effet, retourne à Alger pour traverser vers la France. Mais là non plus, trouver du travail n'est pas facile. Il faut des relations, des papiers. Donc, Alger, oui, et puis d'autres aventures.
Tout ça, c'est du vent. Dans les usines, faut des papiers prouvant qu'on a déjà travaillé. Faut passer tous les jours. Ils ont pris l'habitude de voir des Algériens à leur porte. C'est loin. À notre époque, un chômeur consciencieux devrait avoir une bicyclette et des habits qui ne les dégoûtent pas. Il devrait les écouter en défilant éternellement devant leur bureau, en cachant ses cheveux frisés, le nombre de ses enfants et de ses maladies, puisqu'ils ont peur de payer trop de cotisations. Et si on est trop jeune, célibataire, alors, ils craignent qu'on pille leur savonnerie et qu'on débauche leurs innocents. Enfin, je ne sais pas, moi. On arrive comme tout le monde, mais dès qu'on avoue un prénom original, on se demande s'ils ne vont pas appeler les gendarmes. Dans le bâtiment, on fait que passer. Au bout de la quinzaine, le chantier ferme. Tu peux pas te figurer combien j'en ai rencontré de tous les douars. Ils disent qu'ils travaillent, que ça va, qu'on va bientôt acheter une vache. Ils disent ça au bureau de placement, en faisant les yeux doux aux employés, comme s'ils rendaient de simples visites d'amitié. Naturellement, ils ne trouvent rien, et on les revoit soufflant sur leur pipeau. Plus question de travail, les registres sont grands ouverts sur les cuisses du restaurateur qui croit l'avoir assuré, du moment que c'est écrit. Les plus malins se ruinent et cherchent des associés, des consommateurs, spéculent à leur tour sur les heureuses surprises de demain. Tout le monde met les bouchées doubles, et les chances s'achèvent d'humaniser ce drôle de commerce. C'est pas pour rien que les associés se multiplient. Il y a moins d'égoïsme et un peu plus de bagarre. Mais entre frères, c'est rare si on se tue pour une portion de pois chiche. Sauf s'il y a une femme au milieu. Mais ça aussi, c'est rare. Tiens bon la rampe, t'en fais pas, on aura des idées. Pas dans ce café qui porte la poisse. Si on couchait à l'air, on serait moins triste. Plus de connaissances, plus de patrie, plus de crédit, mais du travail. Et après, on verra. Il y en a des mille et des mille qui ont trouvé. Nous, on est deux, un qui rêve et l'autre qui dort. Il n'y a pas, faut qu'on travaille.
Donc, les traversées vont se mélanger, vont se mêler au moins. Les emplois vont se mêler aussi. Lagdar est parti avec Brahim. Il nous fait part de ses souvenirs sur le bateau, de ses souvenirs d'emploi. Et quelquefois, il y a des fêtes sur les bateaux auxquelles les exilés se mêlent. Au démarrage.
Chaque fois que leur parvenait la souveraine rumeur, ils se taisaient, au bruissement des vagues et scandaient à grands coups de cannes et de sabots un air de cornemuse émané de la horde, eupatride, qu'ils devinaient attroupée sur le pont et il se raidissait par crainte d'agrafer la déchirure, le cœur entre les dents, en leur déroute, prêt pour la piste, sans autre but que la liberté, d'eau et de sable, et la croyance en rien en l'au-delà. Rejetée de son sein, il la perturberait, encore et à distance, en proie à la cruauté fractionnelle. Il n'espérait pas, vulnérable, le secours d'Héraclès, la fin de la torture, paratonnerre, nourrissant, en souvenir d'Atlas, l'âme oiseau, angoissé, portefaix de l'ancêtre, autre frère cloué, silencieux, à l'arbre amer, comme par accident, en sa vengeance machinale, leur légende. Elliptique. Et, recevant le baiser de la récolte, il n'en restait qu'un os à la gorge des juges, déjà condamné, sans moyen d'existence, agitateur notoire, homicide volontaire, fourche du coup de fronde, confluence des deux bras vers l'embouchure, de sang trouble, la branche morte. Pour l'instant, comme toujours, c'était le souk finissant, sous la férule, l'école du soir. Il récapitulait, serpent sous les rafales, remémoré, la mélopée bizarrement familière et blessante. Et du pont à la cale, comme le peuple et les oranges, loin du peuple entassé, aux odeurs humiliantes, sur ce plancher d'exil de patrimoine vendu, avec les mânes de la horde, au déchaînement final de la danse, il trépignait, cœur incarnant l'énigme, préparant son entrée, complice et solennelle, dans la rumeur de l'orchestre et du public aux irruptions intempestives.
Encore un voyage, encore un emploi, encore un voyage, encore un emploi. Travail à Alger, oui, en effet, puis récit d'errance dans la ville, puis emploi de docker, puis traversée pour Marseille en passager clandestin. Et cette fois, l'Agdar a voyagé avec Brahim. Voyons un petit peu tout ça.
L'Agdar plonge la main dans sa poche, rien que pour palper le bout de carton. Il faut choisir, descendre et aller à la paix, ou se tapir dans le creux qu'il s'est ménagé entre le faux pont et le plus haut tas de sacs. En un jour, je peux être à Marseille, ou alors ne plus tarder à franchir la coupée vers le plat de riz, et ce soir, il y aurait 1 000 francs sous le couteau, non seulement le plat de riz, mais une friture de rouget. Resterait le billet de 1 000 à déplier loin de la mer, si du moins il dépistait les faux frères. Ils ignorent qu'il a jeté les autres jetons pour ne garder qu'une seule chance. À plus forte raison, les faux frères dépistés, le billet de 1 000 ouvrirait l'ère du mépris, tandis qu'à Marseille, il se ferait d'autres comparses et il achèterait un chapeau. Je reste. Demain, il fera jour sur un autre port, autrement actif. Tant pis pour la paix. C'est la moindre des punitions. À reculons, le quai replie ses richesses. Est-ce le dernier cri de la sirène ? Silence de tubercule ressuscité dans le silence du grand voyage. On n'entend plus qu'un faible roulis de chaîne, interminable. Toujours elle s'éternise la rupture des amarres. Les officiers sifflent, le dos tourné aux séductions algéroises. Tant pis pour la paix. Rien que des pommes de terre dans ce bateau, c'est tout ce qu'on a chargé.
Donc, passagers clandestins, l'Agdar et Brahim sont sur ce bateau, en effet, et ils vont débarquer à Marseille.
Presse-toi, on est à Marseille. C'est grand, nous aussi on est grand. Le couloir s'allongeait, coupé de marches donnant sur des galeries où la foule se divisait tout en grossissant. Attention, dit Loranais. Quand j'ai débarqué à Marseille, j'ai voulu goûter la soupe de poisson. Ça fait que j'ai couché dehors et la police m'a repéré. En pays étranger, faut pas dépenser avant de s'enrichir. Ils tournèrent sur une place flanquée de brasseries très vastes. Ils remarquèrent, en dévalant une rue à pic, un nombre incroyable de nègres et de nord-africains. Ils baissaient les yeux sur les flaques immondes, reconnaissaient des costumes dont l'élément national était le passe-montagne, kaki, et l'uniforme de la dernière guerre. Ils passaient en revue des cafés où ne manquaient pas les enseignes orientalistes, jusqu'aux touffes de menthe qui ornaient les verres de thé vert. Oui ou non, avons-nous traversé la mer ? disaient leurs regards détournés de groupes indéracinables qui marchandaient les guenilles, tendaient les paquets de bastos. Marseille n'était plus que ce corridor de casbah, le soleil pâlissant sur de vieilles murailles. Une automobile aux antennes cafardeuses, longue comme un corbillard, commissariat de police, un attroupement sur les marches, et à grands cris, haranguant les trafiquants, un sergent recruteur. « Rappelez-vous, rue des Chapeliers. » Loranais entra dans un bar peint en vert. Il fut reçu contre le zinc par le vieux tenancier, sa femme et son fils. L'étagère était vide, mis à part deux numéros de l'Algérie libre et une photo de Bourguiba clouée entre deux piments de Cayenne. « Il y a toujours les bancs. Vous mangerez avec nous ce soir. On vous ouvrira un compte, appuya Loranais, et vous paierez tout en même temps. Il y a du travail ? Pas se casser la tête, vous ferez des kilomètres et vous verrez. Si vous avez des papiers foutus ou pas de papiers, comme tous les nôtres, faut pas vous en faire, je connais du monde. Il y a un maçon qui vient prendre l'apéritif ici. Des fois, il embauche. » Jules Bardèche, Travaux publics. Vous désirez un travail? Quel travail? N'importe lequel, manœuvre. Main sur les hanches, l'employé sifflote. Passent deux travailleurs impitoyablement tirés par leur brouette, qu'on a chargée pour eux, en y mettant tout ce qu'on peut pour avoir le temps d'en griller une pendant qu'ils partent, déjà liés par cette roue unique pour le meilleur et pour le pire. Et pas question de tout planter là, ou de renverser quoi que ce soit au passage, même du sable, même des gravats, ou alors c'est le déshonneur, le mépris, tôt ou tard le licenciement. Et c'est pourquoi ils font corps avec les brouettes, ils grimpent le raidillon, muscles et nerfs tendus, mine de rien, et ils souhaitent un bout de terrain plat, le temps de souffler. Justement, ils sont comblés, voici une pente, et les brouettes cette fois les emportent à un train d'enfer, une casquette vole, et le deuxième capote, par chance, en plein remblai. Oui, les temps modernes, une simple brouette qui semble se laisser faire, et c'est déjà une machine, la roue qu'il faut pousser et qui vous descend. Dressé sur ses souliers pointus, l'employé s'allonge dans son complet confection aux poussières élimées une à une. Prends cette adresse, le patron n'est pas là. Et voilà, jamais on ne dira un mot décisif à l'esclave. Vous pensez qu'il y aura quelque chose? Faudra voir la secrétaire. Vain misère, l'employé, la secrétaire et le patron n'est pas là. Toutes conditions réunies pour tenir le chômeur en respect. Bonjour madame. Encore un parfum, inséparable du fauteuil, mijote la chère mercenaire. C'est pour le chantier? Vous avez des certificats? Oh, n'importe quel travail de manœuvre. Jamais travaillé? Curieuse, elle se prend pour ma mère ou quoi? Si, terrassier. Pas donné le certificat, changer de pays. Inquiétude, sourire. Bon, sourions. Alors? Pas normal ça. Enfin, prenez ce mot pour le contremaître. Il jugera sur place. Un grand chantier, après le pont. Moustache finement plâtrée sous un échafaudage. Pantalon retroussé sur un mollet pyramidal de paysan pris de vertige. Encore un Algérien à la torture. Applique son burin et largue son marteau d'une main. De l'autre, roule un obus de tabac gris. Quelque part, au fond de la gorge, s'évertue une complainte faussée par un grain de plâtre ou de tabac. Du sud, ce bougre et sa chanson. Il est là, le contremaître ? Laisse tomber sa complainte. Pudeur de nomade à l'échafaud. Le voilà. Petit, très petit, fort, prends le papier. Bleu à fermeture éclair, lit et caresse la moto tendrement inclinée. Viens, l'Agdar est confié à un autre pygmée en bleu. Chauffez-le. Bon, tousse l'autre, je vais t'apprendre à ferrailler. Prends les tenailles, regarde-moi. Tu ajustes la barre et tu tords le fil. C'est pour les piliers. Te presse pas, je m'appelle Charles. L'Agdar ? Ah, nord-africain ? C'est les sauterelles qui vous chassent ici ? Mais en France aussi, vous la sautez. Manœuvre, 600 francs par jour. Si tu es à l'hôtel, Manœuvre, 600 francs par jour. Si tu es à l'hôtel, qu'est-ce qui te restera? Moi, je suis premier maçon. en famille. On est trois au turbin, on bouffe, rarement le cinéma, on est toujours après la TSF. Moi, je cherche qu'à vivre. Apporte l'autre bar. Bien sûr qu'on arrive à vivre, ne serait-ce que pour les primes. Les augmentations, faut pas trop y compter. Ah, s'il n'y avait pas tant de syndicats. Un fil de fer zèbre le coude. À quoi tu penses? Arrête un peu. C'est pas nous qui habiterons ce genre de maison. 7 heures, au chantier. On change le secteur. Prends cette massette. Tu vois la pièce au bout de l'escalier? Faut la mettre à bas. Moi, je fais le coffrage des piliers. 100 coups de massette, maigre débris. Inspection déjà de Charles. T'as pas mangé ou quoi? Donne. On commence par le haut. Occupe-toi les décombres dans ce couffin, sur le dos. Il n'y a plus de brouette, le patron est plutôt avare. Et puis c'est l'été, il doit faire ses comptes sur la Côte d'Azur. Passons à la salle de bain, c'est du délicat. S'agit pas de casser les carreaux, à récupérer. On les décolle à petits coups de burin. Il y a encore le parquet, attrape la pelle. Tu prends par en dessous, après tu fais sauter la couche de ciment, à la pioche. Là, ça commence à chauffer, retiens tes coups. Et cogne toujours de même. L'Agdar s'approche, salue. L'autre répond en arabe, tout va bien, tant bien que mal. On finira par s'habituer. Il est temps d'aller préparer les patates. On mange ensemble, bien entendu. Oui, la même région. Fils de Fela à Akbou. Passé par Alger, rien trouvé. Ici, c'est mieux et pire, pas de milieu. Une lampe à alcool, une marmite de fer blanc. Une seule chaise. L'Agdar s'assoit sur le lit, avale les trois quarts de la pitance et chante jusqu'à minuit. Dors dans ma chambre, dit shérif. On n'aura chacun que 200 francs par semaine à payer. On finira par déguerpir. Instruit comme tu es, tu resteras pas manœuvre. Et moi j'en ai marre. Le patron m'invite à boire. Il dit qu'il a confiance en moi, me colle les gros travaux. Avant de dormir, tu vas m'écrire une lettre pour ma mère. Fais-lui comprendre que l'argent d'ici est encore plus faux que là-bas. Je ne peux rien lui envoyer pour le moment. Frères et sœurs, dis-lui que je me marierai un jour au pays, mais pas avec celle qu'elle a choisie. Elle est trop maigre. Ne dis pas ça. Débrouille-toi pour allonger la lettre.
Oui, dans un endroit, dans un autre, les travaux sont toujours durs. Les voyages sont un peu toujours les mêmes. Et les exilés voyagent en fonction du travail ou des emplois qu'on leur offre. Les récits qui circulent disent à droite, à gauche, au nord, au sud, il y a toujours des emplois possibles. L'Agdar et Brahim ont pris la route de Grenoble. Ils travaillent au percement d'un tunnel.
À 500 mètres des baraquements, après le pont de fer, une gueule noire et fumante. L'Agdar monta sur une carriole tirée par un tracteur. Un coup de corne et le convoi s'enfonça dans la nuit, dans un dernier lambeau de glaise, comme si la montagne, ravalant ses entrailles à vif, avait tout dévoré dans une grimace de triomphale souffrance. Beauté, vêtue de caoutchouc, casquée de cuir, des hommes silencieux descendaient vers le front d'attaque. La vague de rochers reculant sous les coups de l'appareil géant, objet de culte, du culte privilégié des chefs de groupe. Les 12 fleurets d'acier, comme les bras d'un monstre, s'étaient mis à frapper dans l'infernal vacarme. L'Agdar, un peu plus loin, fut voué au claquement et au sursaut des marteaux-piqueurs, au halètement des compresseurs, pendant 3 heures, sans arrêt, juste le temps de creuser une centaine de trous à 4 mètres de profondeur. Bourré de dynamite, chaque trou fut ensuite relié par un fil à une boîte d'amorce. Se plaquant contre la paroi, l'Agdar suivit le mouvement général de repli, n'entendit rien, sentit la voûte tressaillir, vit les rochers se rompre, se figer, tandis que le tunnel grondait de bout en bout, comme si l'explosion, aveugle, sourde et traquée, allait revenir à son point de départ, comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'était possible, contre le roc imperturbable.
Oui, en fait, les emplois, comme on vient de le voir, sont très variés, mais certains sont beaucoup plus durs. Au tunnel, c'est vraiment difficile. Et l'Agdar, comme Brahim, après Grenoble, vont encore une fois changer de secteur.
« Lagdar était déjà décidé à partir, mais il attendit la fin de la nuit, se vit désigné pour balayer la piste, s'étendit quelques heures sur un vieux tapis et reprit la route avant le jour. Il monta dans une familiale qui le laissa devant Lyon. Le ciel était sinistre. Il marcha toute la nuit, sentit passer en trombe les lourds routiers, dormit debout en titubant, dégringola dans un fossé, rencontra deux gendarmes qui le suivirent d'un long regard, tomba en arrêt devant un chat sauvage qui l'observait d'une branche d'arbre, toute griffe dehors. Puis il entra dans un wagon abandonné en rase campagne, s'écroula épuisé sur le plancher humide et se releva en pinçant les narines. Aucun doute, le wagon tenait lieu de pissoir. Il se remit en route sous la pluie battante. J'avais bien besoin d'une douche pareille. Il marcha comme un automate avec des embardés, n'évitant même plus les larges flaques d'eau sale, ainsi jusqu'au matin. Il avait parcouru 33 kilomètres. La prochaine ville était Villefranche-sur-Saône. Au bureau de placement, il reçut un billet bleu pour un chantier à la gare. Il dut marcher encore une heure pour trouver le destinataire.
Donc il est allé de Grenoble à Lyon, de Lyon à Villefranche. Certains emplois sont vraiment difficiles, certains quelquefois sont un peu moins durs.
6 fois dans la journée, le vieux maçon et ses deux hommes offrirent à Lagdar la bicyclette libératrice et l'aller-retour de la gare au bistrot. Mais il restait sombre, songeant à sa chute de l'échelle, au petit clou tordu ou si mal planté que le premier câble décrivait au-dessus du mur une ligne brisée, augurant mal de l'inspection prévisible, peut-être déjà faite, alors qu'il descendait en roue libre depuis le centre de la petite ville ensoleillée, puis remontait rue par rue en flâneur, avant de retourner au clou inexorable qui le faisait gronder de rage, oubliant comme à l'instant qu'il était debout sur une échelle et tombant une fois de plus. « Je vais me faire foutre à la porte, pas plus tard que demain. » Mais le soir se passa. Lagdar ne vit pas le chef. Soulagé, il osa revenir à pied jusqu'au bistrot. Il demanda un casse-croûte à emporter. La joviale tenancière qui l'avait vu sur le vélo lui tendit la perche. « Vous paierez en fin de semaine. » Le matin suivant, quand on ouvrit la porte en fer de son dortoir de paille, il vit que le soleil était déjà haut. Quelle heure pouvait-il être? Au moins 8 heures. Le vieux maçon eut un sourire. « Ton patron est allé à Marseille, passer quelques jours avec sa fiancée. Continue d'après les plans. » Et quand ce sera fini, il faudra creuser des trous au poinçon pour fixer les câbles. Et pour finir, tu passeras la couche de peinture. » Pendant 2 jours, il travailla au ralenti. Le second soir, en rangeant la bicyclette, il rencontra un compatriote qui déclara être employé à la gare sur l'un des chantiers. « Il y a un des nôtres qui t'a vu. Il m'a dit que tu étais jeune. Tu dois savoir écrire. » « Oui, » dit Lagdar. « C'est pour une lettre. » J'ai de la famille à Saint-Arnaud. Tout de suite, si tu veux. Je vais chercher l'enveloppe. Tu sais où je travaille? Je sais. Ils se retrouvèrent au pied de l'échelle. Tu vois, dit Lagdar, pas moyen de planter ces clous. C'est du béton et ça mord pas. T'en fais pas. Écris la lettre et moi je plante les clous.
Donc au moins, Lagdar, il a cette possibilité. Il sait lire, il sait écrire. Il peut écrire les lettres pour les autres. Il est quasiment devenu l'écrivain public sur les chantiers sur lesquels il passe. Et avant de continuer sur ses errances, eh bien nous allons écouter un peu de musique.
يا قبض الارواح وعزم سريع اقبض روحي انا ارتاح روحي تحاسبك يا حضرة روحي تحاسبك يا حضرة هل البلا وحوس وديها بيت يا إلهي خب من ثقلتي وزيد عليها وتعود عني ما تتخلف وين نبغي نديها هي طبيعة وانا نبرة هي طبيعة وانا نبرة Thank you. راني اذا بكيت لا شفيت انا ضحك ما هبني
Encore une fois, l'Agdar est reparti. Voyage, errance, emploi, emploi, voyage, errance. Il finit par arriver à Paris. Mais à Paris, il n'a trouvé de travail que dans une usine. Les conditions sont très dures, mais il lit des connaissances.
Comme un ancien, l'Agdar simule un geste pendulaire, épuise la force nerveuse qui le travaille, lui, le travailleur. Cigarette happée d'une main qui n'est plus la sienne, infecte les Gauloises dans l'argenterie industrielle, comme si on fumait du nitrate d'argent. Et même l'eau n'a plus de goût. De même qu'on respire un air artificiel, pas même fétide, un air d'exil et d'esclavage sans recours. Il ne voit rien autour de lui, ne voit que le cadran circulaire de la vieille horloge qu'il soupçonne toujours de tricher elle aussi, simulant ses minutes malgré les piles de fourchettes accumulées au polissage dans la rage au travail, et l'horloge le fixe, miroir haut placé de son présent futur, jamais passé, ronde pénitentiaire qu'il faut encore justifier, pas même pour le patron, pour un pseudo-Lagdar, ce lambeau insipide, moins que mort, trop vivant, poussé dans l'engrenage d'une réclusion anticipée, seconde par seconde, placé devant l'alternative de baisser la tête et devenir lui-même un ressort en titan, aggravant la fascination du cadran interdit, ou au contraire, jouer le jeu du sang, de la vitalité cherchant la seule issue, ne plus contenir cette folle impatience, en finir avec cette journée, une de moins, une de plus, au service du monstre, et fixer à son tour l'horloge qui le fixe, l'œil de cyclope, aux deux cils hallucinants, battant la morne cadence, elle-même pleurant, peut-être sa rage froide, son mécanisme incorrigible, sa progression désenchantée, comme dans un magasin de jouets, un enfant qui serait venu, objecteur sans conscience, s'employer à détruire ses rêves et à les contempler dans leur éclat trompeur d'objets vus autrefois à l'autre face de la vitrine. C'était donc ça, leur travail ? Ils marchaient à grands pas, bousculant, bousculés, à la sortie des bureaux, sous la brume de décembre. Elle était là, sur le pont, rude, potelée, toujours en mouvement, bretonne à la peau blanche, avec de grands yeux noirs, aux longs cils recourbés. Il l'avait d'abord prise pour une Espagnole, employée dans la même usine, plusieurs mois qu'ils se connaissaient. Un soir d'avril, à la sortie, il s'était mis à lui raconter un tas d'histoires et ils avaient passé toute la nuit à marcher avec des haltes dans les cafés. Une seule fois, vers la fin, il l'avait embrassée, presque violée, devant la scène. Après ça, il s'était rendu à l'évidence, elle résistait. Alors, il la traita cavalièrement, comme une amie, avec une pointe d'hostilité. Il ne l'embrassa plus, mais c'était elle qui le faisait. Des baisers larges et humides qui le dépaysaient. Elle voulut couper court, mais elle continuait à l'attendre chaque jour et à le suivre dans les salles toujours pleines d'Algériens où il semblait chercher quelqu'un. Il fut d'abord embarrassé, la surprit en flagrant délit de mélomanie égyptienne et s'éveilla le lendemain dans le même lit qu'elle, à Montparnasse. Il l'avait présentée à Brahim et à ses amis. Pendant des heures, alors qu'ils parlaient, en arabe le plus souvent, elle restait sagement assise comme si son ascendance hispano-celte lui tenait lieu de nageoire en leur étrange oued politico-sentimental et certains plaisantaient. Tu ferais mieux de l'emmener au cinéma, mais tous appréciaient sa présence de femme tranquille et sans verbiage, sa bonne fibre de patience paysanne mêlée de rêves marins. Elle n'avait qu'une amie de son âge, 19 ou 20 ans, qui venait parfois avec elle le dimanche. Elle disait « On vous dérange pas ?» S'asseyait et ne bougeait plus. Les tables se rapprochaient, la salle se remplissait, d'adolescents ébouriffés chantant entre leurs dents les complaintes du douar. Ça existe en breton. Ça veut dire terre. Tiens, mais c'est pas la même chose. Oh non, c'est pas la même chose, mais c'est toujours pareil. Et les ébouriffés mettaient chacun leur disque, puis reprenaient leur place autour des égéries. À présent, pensait-il, nous nous ressemblons tous, comme des poissons, derrière le bocal froidement familier du vieux Paris cosmopolite, sous les faux printemps d'outre-mer. Ou comme s'ils appartenaient à une banquise paradoxale qui transformait leur liberté native, inassouvie, en une détention glaciale de base flottante, impersonnelle, où ne subsistait plus que dans les chevelures et sous la peau, intense, accumulée, héritée des caravanes d'épices, les odeurs d'huile rance et de poivre éventé, les vieilles sueurs de galériens, et tout d'abord ce rien qui leur manquait, le masque du désert ou l'ombre du turban, leur visage contrarié ayant déjà perdu plus d'un trait essentiel, tout ce qu'ils ne portaient plus, qui s'accrochait à eux en toile d'araignée, l'amertume d'un voyage à l'avancée entravée, leur transparence de glaçon pleurant sous un soleil malade ou fugitif, comme un vieil émigré, comme si l'astre aussi se sentait étranger et cherchait loin de tout ce rien qu'il colportait et sur quoi il butait, loque d'exil, jalonnant les paradis des autres, des frocs et des friperies, accoutrements grotesques, invraisemblables, humiliants, sur les restes de sang, un semblant d'existence, des travaux dégradants et la promiscuité de prison, d'hôpital, d'orphelinat ou de caserne.
Souvenirs d'exil, rencontres d'exil, dérives d'exil, et l'exil lui-même, le récit d'exil, dérive vers des souvenirs d'adolescence, peut-être des souvenirs d'incarcération après les émeutes de Sétif. Pour ne pas livrer de nom, l'Agdar utilise des surnoms, un peu comme les noms de personnages de théâtre. Visage d'hôpital, face de ramadan, mauvais temps, pas de chance, le barbu. Peu à peu, la prison qu'il décrit passe en fait, sous les espèces d'un camp de travail. C'est sans doute ce qu'il a connu adolescent, le camp de travail où il a été incarcéré et où il s'est retrouvé avec d'anciens camarades. Dans le texte, on va en effet le retrouver dans ce camp de travail avec d'anciens camarades qu'il avait décrits déjà ou qu'il avait rencontrés déjà dans Nejma.
6 heures. On nous réveille en sursaut, groupe par groupe, à coups de sifflets stridents. Au loin, la première équipe, recrutée hors du camp parmi ceux qu'on appelle travailleurs libres, est éclairée par un projecteur et semble procéder à la fortification des ouvrages militaires, déployés en file indienne à perte de vue. La moindre dépression est dynamitée. Notre rôle est de ramasser en tas tous les débris, puis de balayer le terrain aussi énergiquement qu'une tempête de sable. Fort heureusement, il pleut, c'est la pause, et l'illusion d'avoir quitté le camp. Cette retraite nous enchante, après les déménagements de rocs glacés à l'aurore. Debout, enfin une mutinerie, rien, trois fois rien. C'est un vieil Espagnol monté sur un cheval qui nous a pris de loin pour des Indiens et qui nous canarde, comme on dirait qu'il tire à blanc, car tous les hommes ici tombent de sommeil où font les morts, comme si la guerre ne pouvait finir. Alertés par les détonations, des soldats le poursuivent, tandis que d'autres fouillent les baraquements comme si l'Espagnol était des nôtres, malgré sa cravate noire et son col du dimanche. Tout ceci, en définitive, ressemble à une provocation. À n'en juger que par un fait, les travailleurs libres ont fini par nous rejoindre derrière les barbelés. Au travail, nous entassons les rocs, nous jouons du ballet, mais le vent souffle et c'est encore la tempête sans qu'on nous siffle. Puis des soldats arrivent par les quatre points cardinaux. Ils sautent de leur camion et se mettent eux aussi à jouer à la guerre, comme le vieil Espagnol qui chante en caressant les fils de fer. Les soldats le libèrent, il s'enfuit à l'étable, et d'autres militaires viennent mettre en place de nouveaux barbelés. C'est rassurant. Nous nous sommes rendormis, le ronronnement des chats, le ronflement des travailleurs, tout pousse Mourad à quitter le brasier pour un repos de quelques heures. Il voit l'Agdar en rêve, avec Rachid, et d'autres personnages qu'il ne connaît pas, à moins que dans une autre vie.
Oui, alors, autre vie ou rêve, en effet, on ne saura pas si l'Agdar a effectivement revu ses camarades, Mourad et Rachid, ou bien s'il a rêvé cette rencontre. En tout cas, après ses souvenirs d'adolescence, ses souvenirs d'incarcération suite aux émeutes de Sétif, l'Agdar remonte encore plus loin. Il remonte en fait à ses souvenirs d'enfance autour de l'école du village. Et à l'école du village, on va s'apercevoir que c'est un peu l'atmosphère de la guerre des boutons.
Les jours de semaine, nous restions au jardin. Il y avait un bassin, quelques arbres fruitiers, des carrés de légumes et des pois de senteur accrochés au grillage. Le jardin était vaste, faisant le tour de la maison, sauf d'un seul côté. Le père Albert nous assigna un coin où nous pouvions tout faire, creuser, utiliser les brouettes et les divers outils, descendre au garage pour y réparer nos carrioles sur roulement à billes. Nous disposions aussi d'une baraque du côté de la rue qui allait droit de la prison civile et la gendarmerie à la justice de paix et la commune mixte. Dimanche et jeudi, notre groupe s'augmentait de Luigi et Palmipède, parfois d'autres camarades d'école. Un de ces dimanches, j'eus l'idée d'une armée d'enfants et m'octroyai sans plus tarder le grade de général. À la suite d'une défaite, debout sur la brouette de l'infirmier Albert, je dus faire mon autocritique et me rétrograder au grade de simple soldat. Mais je ne tardai pas à reprendre la tête d'une dizaine de recrues, en désignant parmi eux un colonel, un capitaine et un sergent. Nous étions à l'âge où le monde adulte semble ridicule et nous méprisions tout ce qui n'était pas dans la règle des jeux, sans pitié de l'enfance. Notre monde à nous, tout faux qu'il était, et nous le savions, avait pour lui toute la force de l'élan vital. Il fallait à l'armée être une chose à part et placée au-dessus de tout. Il s'agissait aussi de créer une tension et un état de guerre. Notre conseil élimina toute idée de combat en dehors de nos positions. Les jeunes bergers nous faisaient fuir à coups de fronde. Il nous était arrivé de mettre en déroute d'autres bandes rivales, composées de camarades qui ne pouvaient ou ne voulaient se joindre à notre groupe. Nous les avions battus et ralliés en partie. Il nous fallait donc d'autres ennemis. Les jours de vacances, nous avions la ressource de former deux clans et de nous affronter dans les grandes manœuvres. De cette façon et sans ennemis, il était possible de maintenir un équilibre entre les jeux de l'école, éphémères, de courte durée, réduits à la demi-heure de récréation matin et soir, et les jeux de la guerre qui demandaient du temps. Nous sortions à 4 heures. De 4 à 7, tous les camarades avaient quitté l'école. Les uns restaient à l'étude jusqu'à 7 heures. Les autres les attendaient au jardin. Nous avions obtenu du père d'Albert la permission d'occuper les tranchées creusées en prévision de la Grande Guerre, la vraie, que tout le monde attendait. On ne parlait que de Hitler et de l'Allemagne. On racontait les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Ces récits furent pour beaucoup dans l'idée que nous eûmes d'étendre notre domaine jusqu'aux tranchées réelles creusées devant la route.
Oui, c'est vraiment les jeux de guerre. Et ces jeux de guerre qui sont à la fin des années 30, finalement, ils sont un peu des jeux de guerre qui préfigurent les manifestations des années 40, les émeutes et les premiers soulèvements. Donc, à partir de ces jeux de guerre, entre guillemets, on va passer à la guerre. Et après la guerre, il va y avoir les rêves de libération qui seront en effet à partir de l'Afrique du Nord, mais qui s'étendront bien sûr avec la volonté d'indépendance des autres pays d'Afrique au début des années 60. Donc ici, on va retrouver un texte de Kateb Yassine qui est un véritable texte politique, un véritable vœu, pourrait-on dire, de rébellion des colonies. Et alors que, effectivement, l'indépendance, le mouvement vers l'indépendance se confirme dans les pays d'Afrique, l'Afrique du Nord a pris la tête, le Maghreb a pris la tête. C'est ce qu'il nous décrit et ce qu'il nous annonce dans ce texte assez prophétique qui est comme un rêve de libération. Souvenir donc, et souvenir encore avant de terminer sur la colonisation. Les colons, ils ont eu des terres pour rien, ou presque, et ils ont distribué des bonbons aux enfants, et ils ont invité les propriétaires expropriés à prendre le café avec eux, et ils leur ont proposé de s'associer et de s'associer avec eux pour les attelages. À ceux qui n'avaient qu'un bœuf, ils avanceraient le leur, et puis ils donneraient la semence. Et ils partageraient. Ah, mais disait l'un, j'ai vu en passant que votre mosquée en ruine, vous n'avez pas honte? Je vais vous la reconstruire, moi, avec l'aide des autorités. Et du coup, celui-là, il aurait les matériaux et la main-d'œuvre gratuite pour sa maison. Enfin bref, les colons, ils étaient arrivés, il ne fallait pas trop poser de questions et ils avaient tenu par la force sur cette terre et dans ce pays. Mais la terre avait tremblé. La salve d'Orléansville, dans la tente infernale, il était venu un appel irrésistible des profondeurs, un grand cri d'outre-tombe. Après tant de signaux dont les agents de l'ennemi étaient encore les seuls à faire leur profit, et tous nous l'espérions, la Tunisie, le Maroc ne pouvaient pas rentrer dans l'ordre avant la troisième explosion au cœur même du volcan. Nous avions ignoré l'essentiel. Nous ne pouvions savoir que la poussière des Numides, le Maghreb décadent des contes orientalistes, nous réservait encore un autre oracle. Mieux qu'une révolution préparée, venue d'en haut, une pure création du peuple inculte et délaissé, des militants exclus ou ne comptant pour rien dans la voie hiérarchique, en marge des partis, des chefs et des gardiens de la doctrine, comme un rêve d'enfant péremptoire, incommunicable, ni parole ni acte, plongeant dans l'inconnu, de la matière active qui prend forme avec lui, pour lui et pour lui seul, fiction réalisée, Atlantide sortie d'un désert utopique, riche manteau tombé du ciel sur les épaules d'un orphelin, Sahara déployant sa soudaine opulence à la face jalouse des négriers qui avaient tout manigancé, tout arrangé, servitude et famine, mort lente et déshonneur, pour découvrir enfin leur pomme de discorde, apparition presque insultante du coin de sable transfiguré, de cette nouvelle ruée s'éveillaient les vieux génies laissés pour morts de la terre sans nom, pas seulement une nation, ni deux, ni quatre, ni un gisement pétrolifère, ni une nappe de gaz, mais un immense continent, l'Afrique entière se libérant, du nord au sud, faisant de l'Algérie son tremplin, son foyer, son principe, son étoile du Maghreb, pour traverser la nuit sans attendre l'aurore et retrouver la caravane à chaque jalon de son épreuve, à ses nuits ensablées, ses cimetières en déroute, ses coups de feu toujours comptés, comme des gouttes de pluie pour déboucher en plein combat entre le génocide et la négociation sur le trésor maudit, l'or noir, le mal du siècle. C'était là qu'il fallait fermer les yeux sous le mirage, refuser les promesses, rompre avec l'illusion des réformes tardives, mettre le feu aux poudres. Et c'était, justement, ce que faisaient les fondateurs, ce qu'ils n'avaient cessé de faire, même à l'insu de tous. Et leur force était là, terrifiante, invincible. Rien n'était oublié. Les victimes d'elles-mêmes avaient rouvert leurs tombes et leurs plaies. Les explosions n'avaient plus rien à voir avec les mois sacrés des préfets missionnaires. La Toussaint devenait vraiment la fête des morts. Le sang des innocents jaillissait bien haut. Les serments bien plus hauts que les serments trahis, que les chartes inefficaces. et la civilisation exportée à bas prix comme une denrée pourrie, tout juste bonne pour les pauvres. Voilà, c'est le dernier message, mais peut-être que au-delà de ce dernier message, on peut finir sur une partie de poème qui est aussi une façon de quitter et de saluer l'Algérie. On parle de l'écrivain. Pourtant, il écrivit jusqu'à perdre le souffle et la plume tomba sur sa couche en désordre, comme l'épée rouillée au fond des ruines quand l'ancêtre assagi laissa trancher sa tête. J'avais 20 ans, comme l'épée sigit près de la plume, j'avais 20 ans, comme l'épée sigit près de la plume.
صغري جاي الزنقر ما يدوالو ما نلقى مازال ما خلاصت الحلقة لي ضيع هاد الموم عند الله الملقى قاعد نروح وواحد ما يبقى في ظلام الليل نسير ما فيكي زماني نصدم وندير ندير نحقق الاماني الكور يميل والقلب يقول واش الدليل مجاهد صغير انا هكذا بابا خلاني ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين وحنا الصيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين وحنا الصيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما
Malaika, na kupenda malaika.